Dans l'Apocalypse, il y a ce don de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire que le don de Dieu est comparé à une ville qui tombe du ciel. La première question, c'est de savoir de quoi il s'agit, c'est-à-dire que représente cette ville en question. Je crois que cette ville en question, c'est justement le don de Dieu par excellence, c'est-à-dire le royaume de Dieu, pourrions-nous dire. Ou alors, on pourrait aussi l'envisager comme le but de notre vie, comme ce que Dieu nous offre avant toute chose, comme le salut, c'est-à-dire le don ultime de Dieu, ce que Dieu offre. On pourrait même dire que finalement c'est le paradis terrestre, en quelque sorte. Vous savez d'ailleurs que Jérusalem, c'est un mot hébreu bien sûr, qui littéralement signifie la source de paix. Alors peut-être est-il cela aussi, cette Jérusalem céleste qui nous est donnée, c'est la paix de Dieu. Et certainement que ce à quoi nous aspirons le plus, c'est à la paix spirituelle, c'est à la paix intérieure. Et cette Jérusalem céleste est de ce côté bien différente de la Jérusalem terrestre, parce que dans la Jérusalem terrestre, aussi bien du temps de Jésus qu'aujourd'hui, eh bien ce n'est pas la paix, mais c'est la guerre. Là, ce que Dieu donne, c'est autre chose, ce n'est pas une paix politique, mais c'est une paix renouvelée, c'est une paix profonde, une paix intérieure, et même, je dirais, une double paix, parce que, autre particularité du mot hébreu Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, c'est que c'est un mot qui est au duel, c'est-à-dire c'est un pluriel particulier qui n'existe pas en français, mais qui existe en hébreu, qui est pour les choses qui vont par paire. Et donc Jérusalem est une double paix, on pourrait dire paix avec soi-même, paix avec Dieu, et paix avec les autres, paix avec le monde, peut-être. Alors comment accueillir ce don de Dieu, cette Jérusalem céleste ? Première remarque par rapport à ce texte, Jean ne parle pas au futur. Il ne dit pas « voilà ce qui va être offert par Dieu dans 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans ou à la fin des temps ». Il dit « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que Dieu m'a apporté, voilà ce que Dieu me donne ». Et donc ce texte est au présent. Et je crois que c'est très essentiel de comprendre ce texte au présent. C'est que trop souvent, on a voulu lire l'Apocalypse comme un livre qui parle des fins dernières, c'est-à-dire de la fin des temps ou de la fin du monde. Dans ce cas, c'est un livre qui nous concernerait peu, parce que je dois vous avouer que nous avons relativement peu de chances d'assister à la fin du monde, même s'il faudra bien qu'elle arrive un jour. Mais voilà que le texte là n'est pas au futur, il est au présent. Et donc c'est un texte qui nous concerne tous, aujourd'hui et maintenant. Et cette descente de la Jérusalem céleste, eh bien, n'est pas un événement futur pour quelques-uns qui auront la chance d'y assister, mais c'est un événement auquel nous devons tous assister. Et nous sommes tous là, comme Jean, à appeler à accueillir une réalité nouvelle qui vient de Dieu, un don de Dieu, une grâce de Dieu. Et ce que Dieu nous donne aujourd'hui, ce qu'il offre dans nos vies, ce que nous pouvons voir arriver devant nous, ce qu'il veut nous donner, eh bien, c'est sous forme d'une ville, d'une Jérusalem nouvelle. Et donc c'est cela auquel il faut être attentif, parce que je crois que Dieu n'arrête pas de nous, je dirais, de nous faire tomber sur nous-mêmes sa Jérusalem céleste, et souvent nous ne la reconnaissons pas, parce que nous avons les yeux tournés non pas vers le ciel, mais vers la terre. Alors regardons un peu plus en détail cette Jérusalem céleste, c'est-à-dire d'abord comment elle est donnée, comment elle est offerte et à quoi elle ressemble. Une chose que je remarque, pour commencer, c'est que cette Jérusalem céleste, elle tombe du ciel comme un cadeau. Et ça, c'est assez important, parce que vous voyez que cette image de la grâce de Dieu, du royaume de Dieu, est donc quelque chose qui est donné à partir du ciel. Et là, il y a une première affirmation théologique essentielle, qui va à l'encontre de ce que certains pourraient penser, en disant « l'accomplissement de notre vie, c'est quelque chose que nous devrions construire nous-mêmes, comme s'il fallait, si vous voulez, travailler à la sainteté, travailler à être capable de vivre en paix, travailler à une purification de soi-même, travailler à être de plus en plus pur, de plus en plus saint, de meilleur en meilleur, de plus en plus proche de Dieu, de plus en plus aimant, et comme si finalement, par une sorte d'ascension spirituelle personnelle et de travail, d'ascèse, on pouvait finalement toucher le don de Dieu qui est la grâce, la paix, le salut, le pardon et son royaume. Là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de cela, La Jérusalem céleste n'est pas la Jérusalem d'en bas qui se perfectionne et que l'on améliore en mettant des pierres précieuses sur ses créneaux pour devenir digne de Dieu. C'est une Jérusalem nouvelle qui vient du ciel et qui tombe. Et c'est tout à fait fondamental parce que justement, on voit que le don de Dieu, la réussite de notre vie, dirais-je, le salut, n'est pas une réalisation humaine, ce n'est pas un achèvement de soi-même, mais c'est un don qu'il faut apprendre à recevoir. Ce n'est pas non plus, remarquez-le, une Jérusalem terrestre qui apprendrait à se spiritualiser. Ce n'est pas, c'est même tout le contraire de la tour de Babel, qui s'est dit « faisons une ville et construisons une tour qui touche au ciel ». C'est la démarche inverse. Il n'y a pas de tour qui monte au ciel, il y a le ciel qui descend sur la ville et que l'on apprend à accueillir. Et donc il s'agit d'une réalité nouvelle à recevoir et non pas d'un royaume que l'humanité serait invitée à construire petit à petit à partir du bas. Il y a là une option théologique très importante et ça me fait penser à deux choses. D'abord, à Teilhard de Chardin, pour lequel j'ai d'ailleurs une très grande estime, et je vais vous le redire tout à l'heure, il a certainement contribué à construire mon propre système théologique, je dirais, mais Teilhard de Chardin avait l'idée qu'en fait, l'humanité était comme en progrès, si vous voulez, et que l'humanité progressait, entre autres avec l'aide et l'apport de l'Évangile et de ces bonnes paroles du Christ qui met l'humanité sur la bonne direction, mais que l'humanité devait être en progrès et était en chemin vers un point oméga, qui est le point ultime vers lequel l'humanité devrait finalement arriver et qui est le projet de la création. Eh bien, l'Apocalypse, je ne sais pas si Teilhard a raison ou tort, mais l'Apocalypse en tout cas dit là le contraire. Il ne s'agit pas pour l'humanité de construire un royaume de Dieu qui petit à petit s'approcherait du royaume, mais il s'agit pour chacun de nous de savoir recevoir une réalité qui est autre et une réalité qui vient de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'une réalisation qui vient de l'homme, mais d'un accueil qui vient de Dieu. Et c'est aussi une réponse, dirais-je, aux sceptiques qui parfois disent, vous savez, je trouve que l'humanité ne progresse pas beaucoup et que finalement il y a toujours du mal, de la méchanceté, des meurtres et que par conséquent, peut-on vraiment espérer, même que l'Évangile ait permis à l'humanité de progresser ? Je ne débattrai pas de cela, je pense que l'humanité progresse personnellement, mais je pense aussi qu'elle ne parviendra jamais au royaume et que jamais il n'y aura sur terre le royaume de Dieu. C'est ce que dit le Christ d'ailleurs, un peu après dans le chapitre 24 de Matthieu, dont je vous ai lu le début, quand Jésus dit « il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre, mais ce n'est pas la fin ultime, ce n'est pas le but, le but c'est une réalité nouvelle qui doit être accueillie ». Et donc, il ne s'agit pas d'une construction humaine pour l'humanité, le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas non plus d'une construction personnelle où je devrais, par mes qualités propres, me spiritualiser, me sanctifier pour pouvoir accéder au don de Dieu. Mais il s'agit d'un accueil, d'une réalité spirituelle, savoir accueillir l'espérance, la foi et le pardon comme quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui nous est offert. Et de même, donc, chacun peut recevoir la plénitude dès ici-bas, en quelque sorte. Autre point extraordinaire, je trouve, de ce texte théologique de l'Apocalypse, c'est que le royaume de Dieu est là présenté comme une ville. Là non plus, ce n'est pas innocent, parce que la ville, c'est l'endroit où l'on vit. C'est l'endroit où, finalement, on fait à peu près tout. C'est là où l'on travaille, c'est là où l'on mange, c'est là où l'on... sûrement pour vous qui êtes ici, où l'on rit, où l'on souffre, où l'on boit, où l'on habite, c'est là où l'on va au travail. La ville, c'est l'ensemble de toutes les facettes de notre propre existence. Et ça, c'est assez étrange, parce que vous voyez que le salut de Dieu n'est pas présenté comme un désert. Ce n'est pas présenté non plus comme un jardin. Et là, il y a une opposition très nette par rapport au récit du paradis dans la Genèse, où l'ultime de la relation à Dieu est présenté comme une vie idyllique dans un jardin arrosé avec des bons arbres, arrosé par des bons fleuves, etc., et des bons fruits qui y poussent. Là, dans l'Apocalypse, on n'est plus dans un jardin, on est dans une ville. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de sortir de la ville pour aller se promener dans un parc extraordinaire avec des biches et des arcs-en-ciel. Mais c'est le royaume de Dieu qui est donné comme la ville, c'est-à-dire dans notre vie, dans le quotidien de notre vie, je dirais. C'est le royaume de Dieu qui nous est donné dans notre métro boulot dodo, et non pas dans une île paradisiaque des Seychelles ou ailleurs. Voyez ? Et je crois qu'il y a là une affirmation extrêmement intéressante, parce que c'est donc une intégration du salut qui est donnée dans la vie courante. Et il ne s'agit donc pas non plus de se retirer. Vous voyez, il ne dit pas qu'il faille aller dans un désert ou au sommet d'une montagne ou je ne sais où dans un monastère pour s'y se couper du monde. Il ne s'agit pas de sortir de la ville pour trouver le royaume de Dieu, mais c'est dans la ville elle-même que nous découvrons le royaume de Dieu. C'est une affirmation théologique tout à fait fondamentale. Et ça va même encore plus loin. Parce que la ville, je vous disais, c'est là où l'on habite souvent, bien sûr, parce que par définition, dans les déserts, il y a peu de gens qui habitent. Mais la ville, c'est aussi, le relationnel avant tout. La ville, c'est là où il y a du monde. La ville, c'est le contact, c'est la relation avec les autres. Et donc, on voit que dans cette idée géniale de Jean, de montrer le royaume de Dieu comme une ville qui descend du ciel, il nous montre que le salut de notre existence, la réalisation de notre existence, n'est pas présentée comme une réalisation personnelle, individuelle et égoïste, si vous voulez, mais elle est présentée comme une relation aux autres. Et là, je rendrai à Teilhard le point que je lui retirais tout à l'heure. Teilhard de Chardin a dit justement cela dans ses œuvres, c'est que personne ne peut faire son salut tout seul. Et que d'une manière, nous sommes tous liés aux autres et tous dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que tout le monde est en relation, et l'être humain est en relation les uns avec les autres, ce qui fait qu'on ne peut pas penser un être humain indépendamment de ceux qui sont autour de lui. Et par conséquent, je ne peux pas faire mon salut tout seul en laissant les autres faire ce qu'ils veulent. Mais je suis pris dans une sorte de solidarité qui me dépasse, qui fait que de toute manière, je suis en relation aux autres. Et ça n'est pas un poids, ça n'est pas, je dirais, une nécessité pénible qui m'est imposée, mais c'est pour aller encore plus loin et dire certainement que le salut est même dans la relation avec les autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais il ne s'agit pas de se perfectionner soi-même pour devenir une sorte de merveille du monde, pour être un chef-d'œuvre de spiritualité, un chef-d'œuvre de sainteté et de générosité que l'on pourrait féliciter, remercier en lui offrant le paradis. Mais la clé de ma vie, la clé de mon salut, le sens même de ma vie, n'est dans rien d'autre que dans ma relation aux autres. C'est-à-dire que je n'existe pas sans être considéré comme étant en relation aux autres. Ce que je dis là n'est pas très original. Le Christ lui-même le dit quand il dit « La seule chose essentielle de la vie, c'est l'amour. » Mais l'amour n'est rien d'autre que la relation aux autres. Et quand il dit « Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain », c'est justement tout pour dire que vous ne pouvez pas faire votre salut tout seul dans votre coin, mais vous ferez votre salut dans votre relation aux autres, à ceux que vous rencontrez, et même dans votre relation à vos ennemis, puisqu'il est dit « aimez vos ennemis », et dans votre relation à Dieu, en tant que Dieu est le tout autre, et que Dieu justement n'est pas vous, et que vous n'êtes pas Dieu. Et c'est donc dans la relation que se joue la question de notre salut, et la Jérusalem céleste n'est pas, fait de cellules individuelles dans laquelle on glisserait les saints comme ceux qui sont saints, chacun dans une petite case et qui se serait sauvé par lui-même. Mais la Jérusalem céleste, c'est une ville dans laquelle tout le monde vit en communauté et vit ensemble. L'essentiel, c'est donc l'amour, c'est la paix, et ce n'est pas pour rien non plus que le christianisme a toujours considéré que la notion d'église était essentielle. Et les protestants qui ont un peu trop tendance à être individualistes doivent s'en souvenir. Bien sûr, on dit on peut prier tout seul dans sa chambre, on peut lire la Bible, on peut faire le bien tout seul. Mais en fait, non, parce que cette vie communautaire de la Jérusalem céleste, s'apprend dans l'Église. Et l'Église est justement un lieu où l'on apprend que l'Évangile n'est pas une chose qui se vit tout seul et que la spiritualité n'est pas un art solitaire. La spiritualité est quelque chose qui se vit avec d'autres, en dialogue avec d'autres et en relation avec d'autres. Et donc l'Église est une communauté parce qu'elle est la préfiguration de cette Jérusalem céleste, en quelque sorte. Ensuite, il y a encore d'autres précisions. Vous voyez que ce texte, qui fonctionne un peu comme des images, c'est-à-dire comme des hiéroglyphes, est plein de choses intéressantes et plein d'instructions sur la nature même de la résolution de notre vie. Il nous est dit encore d'autres choses sur cette Jérusalem céleste. En particulier, je ne prendrai pas tous les détails, mais en particulier, qu'elle est entourée d'une grande muraille et qu'elle a 12 portes. Alors la muraille, je la comprends. Bien sûr, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la protection. Et il y a cela dans ce que Dieu nous offre, dans cette présence de Dieu, dans la foi, dans la relation à Dieu, dans le salut qui nous est donné en prémisse pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection. La muraille, c'est Dieu qui nous protège contre l'agression, contre l'épreuve, contre le désespoir, contre le deuil, contre la maladie, contre la peur. Et donc il y a cela dans le don de Dieu, quelque chose qui est de l'ordre de la protection. Et certainement c'est une haute muraille. C'est-à-dire que nous ne sommes pas démunis, je dirais jetés en pâture dans un monde hostile, mais il y a ce Dieu qui fait muraille autour de nous. Et bien souvent cela est chanté dans les psaumes, quand le psalmiste dit « L'Éternel est pour moi un rocher, une forteresse, une haute retraite, une muraille ». Et certainement, c'est une réalité fondamentale. Dieu est de cet ordre-là. Mais en même temps, il y a des portes. Et ça, c'est très intéressant parce que les portes, ce sont des ouvertures. Alors on peut dire déjà, effectivement, qu'il s'agit d'avoir une protection de la part de Dieu, mais pas dans l'ordre de la coupure ni de la crainte. Et donc le croyant a confiance dans son Dieu, mais pourtant il ne s'enferme pas dans sa foi, je dirais. Il a confiance dans son Dieu, mais il ne se coupe pas du monde et il reste ouvert sur une réalité qui ne le menace pas, mais dont il ne se coupe pas. Bon, tout cela est un peu subtil, mais je crois que c'est tout à fait essentiel. Il y a des portes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'isolement, mais notre vie en Dieu est faite, je dirais, d'une sorte de dialectique à la fois de protection et d'ouverture. Je dirais même de certitude et de tolérance. Et il faut bien aussi, à un moment donné, qu'on sache en quoi l'on croit et que l'on soit situé quelque part, que l'on ait des convictions. Et en même temps que ces convictions ne deviennent pas des coupures par rapport aux autres, qu'on ne tombe pas dans une secte, mais que l'on reste ouvert, je dirais, dans le dialogue avec ceux qui ne sont pas dans nos murailles. Et puis, vous verrez aussi, que c'est quand même tout à fait essentiel, c'est que ce royaume de Dieu, qui est comme une ville avec des hautes murailles, a de nombreuses portes. Et par conséquent, il n'est pas un cercle fermé, je dirais, pour lequel, comme ces clubs mondains d'aujourd'hui, où pour y rentrer, il faut faire preuve de bonnes relations et de bonnes connaissances. Mais il y a des portes, 12 portes. Cela veut dire que ce n'est pas réservé à une élite, mais que Dieu accueille. Et dans cette Jérusalem céleste, on peut y entrer, même si l'on n'en fait pas partie à l'origine. Si on est dedans, il y a des ouvertures, et si on est dehors, on peut y entrer. Et quand nous y sommes, eh bien, nous sommes invités aussi à y être en sachant accueillir ceux qui peuvent entrer, puisque les portes ne sont pas fermées. Et donc, c'est une ville qui laisse entrer du monde, des frères, des relations, des rencontres possibles. À partir de ce moment-là, nous ne sommes effectivement pas dans la logique de la secte qui consisterait à dire « je n'ai de relation qu'avec ceux qui me ressemblent » ou « je ne fréquente que les gens de mon église » ou « je ne me marie que dans ma propre religion » mais je suis appelé aussi à accueillir tous ceux qui peuvent entrer. Et ces portes sont c'est des portes, vous savez, une porte c'est en général à double sens, c'est des portes qui peuvent permettre d'entrer, mais aussi des portes qui permettent de sortir. Et là encore, le symbole fondamental de la porte, c'est de pouvoir sortir dans le monde pour aller vers les autres. avoir le courage d'aller dans le monde, c'est-à-dire que notre foi ne soit pas une base retranchée, mais soit un point de ressourcement dans lequel on peut se recentrer et s'affermir. Là, il y a, je dirais, une bonne définition, une bonne description de ce que doit être la démarche de la foi et même de la prière. La prière est un recueillement pour pouvoir rebondir et ressortir vers l'extérieur. Mais on n'est pas appelé à rester toujours enfermé dans la prière. On n'est pas appelé à rester enfermé dans les murailles, mais on va dans la ville pour se ressourcer et on en sort pour agir. On n'est pas non plus appelé à être des vagabonds, sans lieu, sans origine, sans valeur, sans aucune relation, sans rien qui nous fixe à quelque chose, sans référence. On n'est pas des vagabonds à la merci de toute rencontre, mais on a une base. Et il y a là encore une dialectique intéressante que l'on trouve dans tout l'Ancien Testament du peuple hébreu, qui est à la fois étranger et voyageur sur la terre, et qui en même temps a une base fondamentale, qui est sa foi et la relation à son propre Dieu. Alors me direz-vous pourquoi 12 portes ? Une très grande porte aurait pu suffire, bien sûr, pour dire que la présence de Dieu est ouverte à tous, et pour dire que nous pouvons laisser entrer largement de bonnes et nouvelles dimensions dans notre vie. Mais là encore, cette diversité des portes m'intéresse parce qu'elle montre qu'il y a de très nombreuses manières pour entrer dans cette Jérusalem céleste et de nombreuses façons d'entrer dans la présence de Dieu. Le texte nous dit qu'il y a 3 portes à chaque point cardinal, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Ce qui veut dire que d'où que l'on vienne, il y a une porte pour nous, il y en a même 3. Et donc d'où que l'on vienne, quelle que soit notre origine, notre culture, notre confession, notre nationalité, notre personnalité, d'où que l'on vienne, il y a au moins 3 portes qui s'ouvrent pour nous. Et avouez que c'est une excellente bonne nouvelle. Et chacune de ces 3 portes, et les 12 portes, sont toutes, dit le texte, taillées dans de la perle précieuse. Donc il n'y a pas des grandes et des petites portes. Il n'y a pas des voies royales pour entrer dans le royaume de Dieu et des voies secondaires. Mais toutes les voies sont bonnes. Et que votre voie à vous, c'est votre porte. Chacun a sa propre voie, chacun a sa propre porte. Et c'est votre porte à vous qui est la bonne et qui est aussi grande. Chacune de ces portes est bien sûr surmontée d'un ange qui représente la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est la parole qui nous indique bien sûr le chemin pour entrer pour trouver une porte, pour entrer dans cette présence de Dieu. Ça, c'est facile. Saint Augustin, qui a été un grand spécialiste de la cité de Dieu, puisqu'il en a consacré un ouvrage très important, dit une chose sur ces portes qui m'a fait longuement réfléchir et je ne sais pas s'il a raison. Il dit « Ces portes, elles sont grandes ouvertes, elles ont simplement un problème, c'est qu'elles sont toutes un petit peu trop basses, et que par conséquent, il faut se baisser pour passer la porte, et que ce n'est une difficulté que pour les orgueilleux, c'est-à-dire pour ceux qui refusent de se baisser. » Ça m'intéresse comme question, parce que, en un sens, je dirais que c'est sans doute un peu vrai. L'orgueil est évidemment, c'est le péché originel. L'orgueil, on ne peut pas entrer dans la Jérusalem céleste si on est orgueilleux et si on se prend soi-même pour le centre du monde. Donc à un moment donné, pour entrer dans la Jérusalem céleste, il faut, je dirais, se prosterner devant une réalité qui nous dépasse, reconnaître que nous sommes peu de choses et que nous avons besoin d'un Dieu plus grand pour nous aimer et nous sauver. C'est la démarche, je dirais, de la confession des péchés, la démarche pénitentielle fondamentale de toute vie chrétienne. Mais en même temps, ça m'agace un peu cette idée qu'il faille forcément baisser la tête pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que je crois que trop longtemps, le christianisme a milité pour rabaisser l'homme, en disant « vous n'êtes rien, vous êtes minable, vous êtes pécheur, vous êtes coupable, vous êtes mauvais, vous êtes bon à rien, vous êtes petit, vous êtes pauvre. » Bon, oui, mais en même temps, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pas ça. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est « vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes aimé et vous êtes appelé à être sauvé. » Et donc, vous êtes appelé à entrer dans la Jérusalem céleste en levant la tête parce que vous êtes aimé et que Dieu vous déclare vous-même roi et prêtre. Voilà. Et donc, cette espèce d'humilité culpabilisatrice du message chrétien, même si elle a une part de vérité, bien sûr, me fatigue un peu. Et donc je n'irai pas dans le sens de saint Augustin et je garderai ce qui est dans l'Écriture. Les portes n'étaient pas du tout basses, c'était de très grandes et belles portes, des très grandes, des portes royales. Et quand vous arrivez devant la Jérusalem céleste, quand vous vous présentez devant Dieu, ce n'est pas un Dieu qui vous dit « Baisse-toi, pécheur, baisse la tête, agenouille-toi ». C'est un Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous embrasse et qui nous dit « Tu es beau comme un roi ». Voilà. Mais bon, cela dit, là je fais de la digression et donc je commence à dire ce que le texte ne dit pas. Donc je vous en demande pardon et je vais rester dans le texte lui-même. Mais revenons à ces 12 portes. Je vous parlais de la diversité de ces portes et cette pluralité de portes. Il y a encore évidemment bien d'autres choses. C'est assez intéressant, on nous dit que les fondations des murailles sont faites de pierres précieuses. Et vous avez entendu cette description étonnante de la multiplicité des pierres précieuses, dont j'ignore la moitié d'ailleurs, de la sardonyx, le sarpal, et toutes ces choses-là. Et ça aussi, ça m'amuse beaucoup, parce que j'y retrouve cette idée d'attrait pour la diversité, une fois de plus. Il n'y a pas une seule porte, et le fondement même de la ville n'est pas une seule pierre précieuse, mais c'est un arc-en-ciel, une multiplicité de couleurs. Et donc, le but du royaume de Dieu n'est pas, en rang par un, je veux voir une seule tête, ce n'est pas de dire, soyez tous pareils, ayez la même foi, la même liturgie, la même conviction, la même pratique, la même façon de vivre. Mais le fondement même de la Jérusalem céleste, il est dans la multiplicité des couleurs, des pierres précieuses, et tout cela est diversité. Et c'est dans l'union de toutes ces choses-là, et justement dans la relation, et dans le fait de vivre en paix, je dirais, de toutes ces différentes dimensions que se trouve le royaume de Dieu. Et donc le royaume de Dieu, le but même de la religion, n'est pas d'arriver à une seule religion chrétienne dans laquelle tout le monde se réunit de la même manière, mais au contraire dans le dialogue entre les chrétiens qui peuvent parler entre eux et qui peuvent être comme ça les fondements de la Jérusalem céleste, l'un étant une améthyste et l'autre un onyx et l'autre un béryl ou je ne sais plus quoi. Et c'est dans la communion entre ces chrétiens de différentes couleurs que tout peut bien se passer. Et puis enfin, autre chose très curieuse, c'est qu'on nous dit que dans cette Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Là, c'est très bizarre aussi, puisque le temple, c'est le lieu de la relation à Dieu. Et comment comprendre que Dieu n'ait pas sa place dans la ville? Eh bien, c'est qu'il faut le comprendre dans l'autre sens. C'est qu'il ne s'agit pas, justement, qu'il y ait une pratique religieuse, un temple comme lieu spécifié de la présence de Dieu, mais il n'y a pas de temple parce que, nous dit-on, Dieu est partout. Et donc la religion, la pratique religieuse, c'est un moyen pour nous aider à apprendre à accueillir Dieu. Mais la religion n'est pas un but. Le but, ce serait d'être en totale communion avec Dieu et d'être dans une sorte de parfaite transparence, je dirais, avec Dieu, et de vivre à la lumière de Dieu, d'une lumière qui nous éclaire d'une façon permanente et qui fait que notre vie, elle est en permanence, comme dans la Jérusalem céleste, éclairée, réchauffée, par Dieu qui nous donne cette lumière et qui éclaire cette Jérusalem. Que notre vie soit aussi libérée par cette lumière qui nous permet de voir où l'on va. Lumière qui illumine tout, même toutes les dimensions de notre vie, même les plus profanes et même les plus banales. Une lumière qui nous purifie, qui nous libère de tout mal et de toute honte. Bref, c'est cette Jérusalem céleste qui nous est donnée comme un cadeau, qui nous est offerte comme une grâce, avec toutes ces portes royales, avec toutes ces portes diverses, avec toutes ces pierres précieuses, tous ces fondements. Cette Jérusalem céleste, elle vous est offerte. La seule chose qui nous est demandée, c'est de la recevoir, de l'accueillir et de bien vouloir y entrer. Mais n'ayez crainte, les portes de cette ville ont été ouvertes pour vous et rien que pour vous. Amen.